vie après normale.
Nous sommes en compagnie pour cette émission enregistrée à l'occasion des conférences faites par les anciens. Blandine Sorbe. Blandine Sorbe, bonjour, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor, la web radio de l'ENS Lyon.
Bonjour Quentin, merci pour cette invitation.
Brève présentation de votre parcours qui a quand même de quoi impressionner. Vous intégrez donc l'École normale supérieure de Lyon, qui à l'époque s'appelait l'ENS LSH en 2004, dont vous sortez quelques années plus tard en 2007 avec une agrégation d'allemand en poche. Et donc non content de cette agrégation réussie brillamment, vous décidez d'enchaîner directement sur la préparation de l'École nationale de l'administration, l'ENA, que vous réussissez d'ailleurs également en un an, ce qui suscite, je vous le disais juste avant, mon admiration éternelle pour vous. Et vous passez donc ensuite les trois prochaines années à Strasbourg. Et vous sortez donc de l'ENA, auditeur à la Cour des comptes, puis conseiller référendaire à la Cour des comptes. Et vous êtes aujourd'hui nommée directrice générale adjointe du musée du Quai Branly, poste auquel vous êtes actuellement. Votre nomination s'est déroulée l'été dernier. Pourriez-vous nous décrire une journée de travail type au musée en tant que directrice générale adjointe ?
C'est un peu compliqué parce que chaque journée est assez différente et c'est vrai que les tâches qui me sont confiées sont très variées. Cette semaine, pour vous donner un exemple, on travaille beaucoup en ce moment à la prochaine exposition qui va ouvrir lundi, qui est sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans ce cadre, j'ai eu un certain nombre de réunions pour justement s'assurer que l'exposition allait être montée dans les bonnes conditions de sécurité, que la pirogue de 12 mètres qui doit figurer dans l'entrée de l'exposition allait bien pouvoir être positionnée au bon endroit et qu'on allait pouvoir la faire entrer sans gêner le public. Il y a cet aspect-là des choses. Par ailleurs, je travaille aussi sur les questions juridiques, budgétaires, de ressources humaines. Donc il y a énormément de missions qui peuvent donner lieu à des réunions dans la journée sur ces différents sujets. Cette semaine, j'ai aussi eu l'occasion d'auditionner les candidats pour la future cantine du personnel. Enfin voilà, ce genre de... C'est très difficile de vous donner une réponse précise sur une journée type, parce qu'en fait c'est vraiment la vie, le quotidien d'un établissement public et ce qui fait que son fonctionnement est réussi. Enfin, voilà.
Alors avant de laisser Pauline parler sur une question qui va la concerner tout particulièrement en tant qu'anthropologue, je voudrais vous demander comment êtes-vous parvenue à cette fonction de directrice générale adjointe du Quai Branly et comment cette opportunité vous a été offerte ?
En réalité, ça peut paraître un peu étrange de passer de la Cour des comptes au musée du Quai Branly vu de l'extérieur, mais les deux postes sont très liés puisque le fait d'avoir été magistrate à la Cour des comptes, ça m'a permis pendant 4 ans de travailler sur les sujets de politique culturelle, de faire un certain nombre d'enquêtes, de contrôles sur ces sujets-là. Et c'est par ce biais que voilà, j'ai pu acquérir un certain nombre de compétences et une certaine une légitimité, même si je commence encore ma jeune carrière. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a proposé d'occuper ce poste.
Et justement, puisque vous travaillez donc au Quai Branly, est-ce que vous avez un goût particulier, une connaissance particulière de tout ce qui est justement les civilisations dites primitives, qui sont finalement l'objet de ce musée?
Oui, alors je ne reviendrai pas sur les débats justement entre civilisations primitives, art premier. On peut dire que le musée du Quai Branly traite des civilisations non européennes, parce qu'il y a aussi de l'art contemporain issu de des continents hors Europe. À vrai dire, à titre de visiteur, à titre personnel, moi j'avais un intérêt particulier pour ce musée que je trouve très très beau, très intéressant, mais je n'ai pas de spécialisation en anthropologie ou en ethnologie, c'est plus par une curiosité naturelle pour tous ces sujets. J'avoue que j'y apprends beaucoup depuis que j'ai été nommée, en discutant avec les conservateurs du patrimoine qui travaillent.
Est-ce que le passage de la Cour des comptes au Quai Branly n'est-il pas un peu rude? C'est-à-dire que c'est quand même deux milieux très très différents, peut-être aux objectifs et aux personnalités qui y sont présentes. Alors c'est une question, puisque je n'en sais rien, très différente. Comment est-ce que vous avez perçu ce changement? Est-ce qu'il est si important que ça au fond? Comment ça s'est passé?
Oui, alors il y a forcément un changement dans l'ambiance de travail, mais c'est le cas pour, je pense, chaque institution a son environnement, son ambiance, ses habitudes. Moi, ce qui me plaisait, enfin ce que j'avais envie de faire en quittant la Cour des comptes, c'était de passer d'un statut où on est dans une sorte d'observation critique. Enfin, à la Cour des comptes, on a un rôle de contrôle, de veille, éventuellement de on doit pointer des irrégularités quand elles se manifestent. J'avais envie de passer de ce rôle-là à un rôle plus opérationnel, plus dans l'action, où on est soi-même. On met en œuvre soi-même une politique publique qui est celle d'une politique culturelle. Donc, effectivement, le changement est un petit peu rude parce que c'est un mode de travail qui est très différent. On est plus on est moins, en tout cas, dans l'observation de l'extérieur de politique. On est plus en train de la faire soi-même. Donc, ça implique de prendre un peu plus de risques, de parfois se tromper, mais c'est ça qui est intéressant aussi.
Et quelle est la cohérence ou la continuité qui peut exister entre l'un et l'autre?
En fait, il y a quand même dans l'action publique un certain nombre de compétences qui sont utiles des deux côtés. Quand j'étais à la Cour des comptes, j'ai notamment eu l'occasion de contrôler beaucoup de marchés publics, par exemple. Donc tous les achats qui sont faits par des institutions publiques doivent passer par un certain nombre de règles assez strictes. Donc j'ai pu le voir sous l'angle du contrôle. Et maintenant, je m'en sers pour moi-même passer des marchés ou contrôler, piloter des marchés publics. Donc à ce titre-là, il y a une continuité importante. Après, je ne vais pas vous dire que heureusement, il y a une progression, il y a des choses nouvelles que je découvre et sur lesquelles j'ai encore à apprendre.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous décrire, juste avant de passer à un sujet qui toujours concerne de très près ma très chère Pauline, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type à la Cour des comptes, du coup? Parce qu'on a vu donc une journée type au Quai Branly, qu'est-ce qu'on y fait? Parce que ça fait partie de ces entités dont on entend parler très souvent, dont on attend les rapports avec parfois appréhension ou avec une attente, tout dépend de quel côté on se place. Qu'est-ce qui s'y passe concrètement, en fait?
Je signale que vous pouvez y venir pour les journées du patrimoine. Chaque année, la Cour des comptes est ouverte et il y a des magistrats qui sont présents, qui expliquent leur métier. Et souvent, ça a un certain succès. En fait, on y contrôle l'action publique. Donc ça peut se rapprocher un peu d'un travail de recherche, d'une certaine façon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti et c'est pour ça que ça me plaisait beaucoup d'y travailler. C'est qu'on accumule énormément de documents sur un sujet particulier, sur lequel on travaille en équipe en général. Donc, on se fait communiquer, puisqu'on a des droits, des prérogatives pour obtenir une communication de documents. On se fait communiquer tous les documents concernant un établissement, par exemple. On peut contrôler l'ENS, par exemple, ou voilà, d'autres établissements publics. On se fait communiquer toutes les pièces récentes, tous les documents comptables, tous les documents budgétaires. Et puis, on analyse ces données-là et puis on mène un certain nombre d'entretiens avec les dirigeants de ces organismes et tout autre agent qui y travaille, éventuellement les utilisateurs, les usagers. Voilà. Et sur la base de ces éléments, on rédige un premier rapport qui souligne, bon, en général, ce qui marche bien, mais aussi surtout ce qui pourrait marcher mieux. Et ensuite, il y a une procédure qui est contradictoire parce que c'est une juridiction. On a un statut quand on y travaille de magistrat en partie. Et donc, on fait une procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'on envoie un rapport provisoire aux personnes qu'on a contrôlées. Ils ont la possibilité d'y répondre par écrit. On peut les entendre éventuellement. Et toute la procédure est également collégiale, c'est-à-dire que les rapporteurs, donc les personnes dont je vous parlais, la petite équipe qui rédige un premier rapport, doit à chaque étape du parcours faire valider ses conclusions par une collégialité, c'est-à-dire un petit comme un jury de thèse, un petit peu, enfin, un groupe de personnes, une chambre qui voilà, ça permet d'affiner aussi les constats et de préciser les choses. Et donc sur la base des observations qu'on reçoit en réponse au rapport provisoire, on rédige un rapport définitif qui là est à nouveau délibéré, débattu en interne à la Cour des comptes, et c'est sur la base de ce nouveau document on choisit, là aussi collégialement, si on l'envoie simplement à l'organisme qui a été contrôlé, si on en fait une publicité, c'est-à-dire on fait un rapport public, c'est là que vous en entendez parler en général dans les journaux, si on décide de l'intégrer à une synthèse plus large sur un sujet plus vaste, la politique de l'enseignement et de la recherche par exemple, à partir de plusieurs contrôles d'universités, de grandes écoles. Voilà un petit peu la façon dont on travaille.
Et alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous posez deux questions qui en fait n'en font qu'une. Donc, vous avez le statut de magistrat, donc avez-vous un statut d'inamovibilité? Et également, donc ces rapports, lorsqu'ils sont rendus publics, parfois rencontrent un écho assez important. On a en mémoire, par exemple, un assez récemment fait, je crois, vous me confirmerez ça, puisque vous le savez de toute façon bien mieux que moi, sur l'Académie française, la gestion de l'Académie française qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous avez déjà eu, vous personnellement, des retours sur ces rapports ou vu les conséquences qu'ont eu la publication de ces rapports sur les institutions qui étaient concernées par ces rapports.
Alors oui, souvent la Cour des comptes en réalité procède elle-même à un suivi des recommandations qu'elle fait dans ses rapports. C'est-à-dire on essaie de revenir voir les organismes, les administrations qu'on a contrôlées en 3-5 ans après la publication du rapport pour pointer avec les dirigeants de l'organisme, voir quelles recommandations ont été mises en œuvre, lesquelles ne l'ont pas été, pourquoi. Et ça permet d'avoir un taux de suivi des recommandations et de mesurer un petit peu l'impact des rapports qui sont publiés par la Cour des comptes. Sachant que, sur la partie réellement juridictionnelle, c'est-à-dire vraiment le jugement des comptables publics, les problèmes qui peuvent se poser, qui sont vraiment des irrégularités, pour tout le reste, la Cour des comptes n'a pas de pouvoir de pouvoir contraignant, de pouvoir de modifier les choses, puisque comme vous le disiez, les personnels à la Cour des comptes sont magistrats, ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des personnalités politiques qui ont été choisies par les citoyens. Donc il ne faut pas non plus basculer dans un système où des magistrats peuvent décider ce qui doit être fait ou non. C'est plutôt un rôle de conseil, mais effectivement c'est très important et c'est quelque chose qui est développé de plus en plus au cours des dernières années. La Cour des comptes essaie d'avoir un suivi des recommandations qui sont faites dans ces rapports. Et c'est vrai que c'est toujours agréable, enfin moi ça m'est arrivé un petit peu sur les quelques enquêtes que j'ai pu faire, de se rendre compte que ce qu'on a proposé, les mesures qu'on a préconisées sont prises en compte déjà, sont réfléchies, alors sont pas forcément mises en œuvre telles quelles, mais au moins permettent de créer une base de discussion ou de contribuer à la réflexion sur un sujet.
Alors, je voudrais aborder avec vous un rapport que j'ai eu l'occasion de lire un peu par hasard, donc je ne sais pas si c'était à l'époque, si vous étiez déjà à cette époque à la Cour des comptes, qui était celui notamment sur les écoles normales supérieures. Donc je voulais savoir si vous aviez à vous parler justement d'un suivi. Est-ce qu'à la suite de cette publication, donc il y a quelque temps déjà, je crois qu'il n'est pas tout, récent. Vous veniez d'arriver à la Cour des comptes. Est-ce que vous avez vu ou eu connaissance de ce suivi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puisqu'en fait, pour résumer très brièvement ce qui s'y est dit, ou plutôt je vais peut-être vous laisser le résumer très brièvement si vous voulez bien, vous le ferez bien mieux que moi.
Je ne veux pas dire de bêtises. Je sais qu'il y a une des recommandations qui a été qui concernait l'engagement décennal des élèves, si c'est à ce point-là que vous pensez, le fait que les élèves à l'école normale supérieure, et c'est la même chose pour le rapport qui avait eu lieu sur Polytechnique, qui avait été publié un peu après, les élèves s'engagent à travailler pendant 10 ans pour l'État, et il y a un suivi qui doit être fait de ce que deviennent réellement les élèves, pour ceux qui ne choisissent pas en particulier des carrières dans l'enseignement et la recherche, pour s'assurer qu'effectivement ils remplissent ces obligations et ne partent pas, par exemple, travailler dans le privé sans avoir remboursé les années correspondantes. Donc ça, c'était un des points qui avait été soulevé par la Cour des comptes pour justement attirer l'attention sur le fait que ce suivi du parcours des élèves n'était pas toujours totalement réalisé, ce qui n'est pas évident d'ailleurs à faire, parce que les gens déménagent, ça peut être relativement compliqué. J'avoue ne pas savoir quel est l'état du suivi de cette recommandation.
C'est-à-dire vous n'avez pas de pouvoir de gestion directe, de contrôle direct sur ces suivis de parcours?
Non, effectivement, c'est aux administrations de prendre en main le sujet et de faire évoluer les choses pour que ce suivi soit mieux effectué. La Cour des comptes, comme je le disais, n'a pas de pouvoir direct contraignant sur les administrations et heureusement, en un sens.
Oui, alors on va passer un peu du coq à l'âne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt c'est moins le passage, on va dire, de la Cour des comptes au Quai Branly que le passage des études germaniques à l'ENA et à l'administration. Voilà, étant germaniste à l'origine, c'est quelque chose qui m'intrigue et je voulais savoir finalement comment ça s'était fait, pourquoi ça s'était fait, s'il y avait dès votre entrée à l'école une envie de faire autre chose ou si vous y voyez une continuité, quelle qu'elle soit.
En fait, je n'ai jamais eu de plan de carrière très précis, ni de projet professionnel vraiment bien arrêté, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc quand je suis rentrée à l'ENS, j'étais très heureuse et très, très curieuse de tout ce que j'y apprenais. J'avais choisi l'allemand en classe préparatoire parce que j'avais eu un enseignant à Bordeaux, au lycée Camille Julien, qui était particulièrement enthousiasmant, brillant, et voilà, qui m'avait donné envie de poursuivre dans cette matière, mais j'avais aucune attache personnelle avec le pays ou de lien familial particulier. Et donc, quand je suis arrivée à l'ENS, je me suis dit que j'allais continuer dans cette voie parce que ça m'intéressait et que c'était pas du tout lié à une vision sur l'avenir de ce que je pouvais devenir, sur mon avenir en tout cas. Donc j'ai choisi de passer l'agrégation parce que je trouvais ça intéressant. Enfin, voilà, c'est un peu bête dit comme ça, mais je n'avais pas forcément l'idée de continuer là-dedans pour une raison un peu personnel peut-être, qui est que, en fait, mes deux parents sont enseignants, je connais assez bien le monde des enseignants, j'ai l'impression de déjà très bien le connaître, et donc je m'étais toujours dit que j'essaierais peut-être d'aller voir autre chose au cours de ma vie. Puis j'avais un peu peur, je pense, en continuant dans l'enseignement et la recherche, de me retrouver dans un monde très spécialisé, mais où j'aurais peu de possibilités de changer si au bout de 15 ou 20 ans, finalement, je me rendais compte que c'était pas le tout et que d'autres choses pouvaient m'intéresser. Donc, c'est un arbitrage qui n'est pas facile à faire, et encore aujourd'hui, je continue à réfléchir là-dessus parfois, parce que c'est vraiment choisir entre être spécialiste et être généraliste. J'avais adoré l'année de l'agrégation, pouvoir être, enfin, à la fin de l'année de l'agrégation, pouvoir me dire ce sujet-là, je le maîtrise, ou en écrivant un mémoire de master, de pouvoir me dire je fais partie des quelques personnes qui ont une compétence sur ce sujet. En choisissant d'évoluer vers d'autres champs de compétences, donc j'avais choisi de préparer l'ENA, j'ai dû accepter de finalement être plus généraliste, c'est-à-dire de connaître des choses en droit, en économie, sur un certain nombre de matières, mais à chaque fois sans avoir réellement cette satisfaction d'être totalement spécialiste d'un sujet. Et c'est un arbitrage à faire que j'ai choisi de faire à un moment donné. Alors, pour reparler de la continuité, je ne suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Malheureusement, l'allemand, maintenant, je le pratique moins, davantage à titre privé, parce que je continue à lire de la littérature allemande, parce que ça me plaît, mais c'est vraiment un loisir. Il y a eu un partenariat avec l'équivalent de la Cour des comptes en Allemagne, le Bundesrechnungshof, pour lequel j'ai eu l'occasion de reparler allemand, ça a été un grand plaisir, mais globalement, maintenant, ça ne me sert plus réellement dans mon quotidien, dans le quotidien de mon travail.
Pour en revenir à l'ENA, comment est-ce que vous disiez, il a fallu accepter de retomber un peu dans la généralisation, enfin en tout cas renoncer à la spécialisation. Et comment s'est passée votre année de préparation? Parce que après 2 années d'études germaniques, 1 année d'agrégation, enchaînée encore avec 1 année de concours en plus, finalement dans une filière que à la base vous ne suiviez pas. Comment cela s'est passé? Et est-ce que vous auriez justement des conseils à donner aux élèves qui serait susceptible à l'ENS de vouloir suivre le même genre de parcours?
Alors ça a été une année, ça n'a pas été une année reposante. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour me mettre à niveau. Je m'étais promis que c'était le dernier concours que je passais, en gros. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas, j'allais pas enchaîner sur d'autres années de préparation, parce qu'à un moment, il faut arrêter. Le conseil que je donnerais, c'est peut-être de justement savoir prendre des risques, au sens où vraiment le statut d'élève à l'ENS est quand même quelque chose de très protecteur, de très confortable quand on réfléchit à la situation économique en France et du marché du travail. Donc je pense qu'il faut pouvoir se lancer ce genre de défi et y aller. Et puis ça a marché pour moi, pour d'autres ça peut ne pas marcher, mais au moins pendant une année on a essayé. Ça peut être ça peut être de partir à l'étranger, de faire de se lancer dans une autre voie. Pour préparer l'ENA, effectivement, après j'ai choisi d'entrer à la prépéna de Paris 1 et ENS Ulm. La voie la plus traditionnelle, c'est Sciences Po Paris, donc c'est possible aussi de passer le concours pour entrer en master à Sciences Po Paris. C'est ce que font la majorité des gens, en tout cas la majorité des gens qui rentrent à l'ENA sont passés par cette prépa, en tout cas c'était le cas à mon époque, mais je sais que cette prépa de Paris 1, qui a un très bon niveau également, est en train de monter, et peut-être de rattraper Sciences Po, j'en sais rien, je n'ai pas les derniers chiffres en tête. En tout cas, j'avais trouvé que c'était une préparation vraiment très bien faite, assez exhaustive sur le programme, ce qui n'est pas évident parce qu'il est très vaste, avec des enseignants très, très, très humains, très motivés. Les groupes étaient plus petits qu'à Sciences Po Paris, donc il y avait un rapport plus direct aussi aux enseignants qui était assez agréable, notamment pour préparer les oraux, par exemple.
Alors justement, après votre intégration donc de l'ENA, vous rejoignez l'école à Strasbourg, et ce qui est assez intéressant, c'est que justement cette intégration est arrivée juste après votre départ de l'ENS, donc vous aviez une proximité entre les deux écoles qui va me permettre de vous poser la question de la comparaison entre ces deux écoles. Quelle similitude, puisqu'on est quand même sur deux champs, deux écoles qui préparent à la fonction publique de manière très différente.
Le La différence quand même, c'est que l'ENA est une école d'application, en tout cas se revendique comme telle. Donc il y a une grande partie de la scolarité en réalité qui ne se passe pas à Strasbourg, mais dans des stages. Donc on peut être en préfecture, en ambassade, dans des ministères, et ça occupe une bonne partie quand même du temps, ce qui fait qu'on est à Strasbourg en discontinu, peut-être un an d'affilée, quelque chose comme ça, sur toute la scolarité. Mais paradoxalement, ça crée aussi un esprit de promotion parce que, à quelques exceptions près, les gens ne sont pas originaires d'Alsace, donc on se retrouve à Strasbourg sans forcément d'attache par ailleurs, ce qui fait que les gens se retrouvent assez facilement le soir. Et donc, ça crée aussi un esprit de promotion qui est peut-être un peu plus fort qu'à l'ENS où finalement j'avais le sentiment, quand j'y étais, mais c'était peut-être un sentiment personnel, que les regroupements se faisaient un peu par spécialité. Voilà, les germanistes, les linguistes pouvaient nouer des liens, mais il y avait un peu moins cet esprit de promotion à l'échelle vraiment de l'ensemble des élèves d'une année. En plus, à l'ENA, il y a vraiment cette séquence par année avec effectivement le classement de sortie qui crée aussi un climat un peu différent. Donc les deux écoles m'ont plu. Enfin, l'ambiance est agréable dans les deux, je trouve. Mais effectivement, il y a un et puis dans la finalité des deux écoles, forcément, il y a une différence puisque l'ENS forme traditionnellement, et c'est son rôle, des enseignants-chercheurs, alors que l'ENA a effectivement une visée beaucoup plus opérationnelle.
Justement, nous évoquions tout à l'heure donc ce rapport de la Cour des comptes sur la question des écoles normales supérieures et notamment du suivi des élèves en fin de scolarité. Moi, je me demandais justement, quand vous avez fait votre scolarité à l'ENS, donc vous avez fait votre master, vous avez passé l'agrégation et vous avez décidé à un moment donné donc de quitter l'école pour rejoindre la prép ENA et finalement passer l'ENA. À l'époque, comment cela s'est-il passé? Vous avez dû en parler avec l'administration, la direction? Votre choix d'orientation a-t-il été perçu bien par les autorités? Et surtout, vous a-t-on aussi aidé dans votre orientation?
Alors, en réalité, comme les obligations qui pèsent sur les élèves de l'ENS, c'est de passer un concours de catégorie A de la fonction publique. Donc, dans la mesure où j'avais déjà l'agrégation à ce moment-là, l'administration de l'école n'a pas fait de difficulté pour que je quitte. En réalité, je n'ai pas quitté l'école. D'ailleurs, c'était ma quatrième année et je l'ai faite en tant qu'élève à l'ENS Ulm et Paris 1 pour la prép ENA, qui est une sorte de master professionnalisant. Et donc, ça n'a pas suscité de réaction particulière de la part de l'administration de l'école et je n'ai pas eu de soutien pour autant dans mes recherches, mais en même temps, je n'avais pas forcément besoin d'être accompagnée puisque la voie était assez claire. Il y a peu de préparations, comme je le disais, différentes, et celle-là m'intéressait. Donc,
vous avez passé l'agrégation et vous avez eu également une expérience de l'enseignement et cependant pas une expérience de l'enseignement secondaire en tant que professeur d'allemand, mais vous avez été chargée de cours de finances publiques à l'ENA en 2011-2012 et surtout ensuite enseignante au sein du master économie et financement des métiers de la culture à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, et ce de janvier 2013 à février 2015. Et finalement, en quoi consistaient vos charges d'enseignement? Quels étaient les contenus des cours, en somme, et finalement, quelles étaient aussi les missions et les conditions concrètes d'enseignement dans ces établissements, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes, puisqu'on a d'un côté l'ENA, de l'autre une université, qui donc ne sont pas les mêmes cadres et n'ont pas non plus les mêmes publics. Hein.
En réalité, mon expérience d'enseignement la plus longue, c'est encore une autre, c'était à Heidelberg pendant mon année à l'étranger où j'étais lectrice à l'université, où là ça a duré un peu plus longtemps que ces deux autres expériences que vous mentionnez. Et par ailleurs, j'étais aussi enseignante quand j'étais ici via le Génépi en prison, donc c'est un autre cadre, comme beaucoup de normaliens, je crois. C'est aussi un autre contexte pour enseigner. Effectivement, ce sont des environnements très différents entre Nanterre et l'ENA, par exemple, ou entre l'université de Heidelberg et la prison. Mais je trouve qu'il y a toujours dans toutes ces expériences, alors j'ai pas eu le temps de me forger une pratique professionnelle de l'enseignement particulièrement solide, puisque ça a été à chaque fois des expériences relativement courtes quand même. Donc je n'en tirerai pas de leçons universelles, mais je trouve qu'il y a dans ces expériences toujours quelque chose de disons quand ça fonctionne, quelque chose d'extrêmement gratifiant, cette sensation d'arriver à transmettre un savoir et à le faire en harmonie avec voilà un public qui est en face de soi. Et je trouve que c'est ça, et c'est ce que j'admire particulièrement chez les enseignants qui arrivent à se renouveler dans leur métier, c'est cette capacité à transmettre un savoir en essayant d'être partir de ce que le public des élèves attend, de ce qu'il peut recevoir, enfin, d'essayer de trouver des formes pour transmettre le savoir au mieux. Ça, c'est quelque chose que j'admire chez les enseignants et que j'essaie tant bien que mal de reproduire dans les quelques occasions que j'ai de continuer à enseigner, ce qui est toujours une expérience enrichissante et agréable.
Vous avez été également rapporteur auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique en 2014-2015, sur l'année 2014-2015. Quelles étaient vos responsabilités et vos missions ?
Alors, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a été créée en octobre 2013 à la suite de l'affaire Cahuzac. Donc, c'est une instance qui a pour mission de contrôler les déclarations d'intérêts et les déclarations de patrimoine d'un certain nombre de personnalités publiques, notamment les députés, les sénateurs. Et donc, ma fonction dans ce cadre, c'était de contrôler justement ces déclarations d'intérêts et de patrimoine. Ça consiste à recevoir les déclarations que vous avez pu voir si vous allez sur le site de la Haute Autorité, elles sont publiques, et de les confronter aux données dont on peut disposer par ailleurs, c'est-à-dire en particulier les données de l'administration fiscale, et donc de vérifier pour les déclarations de patrimoine en particulier si les déclarations faites par les députés, par exemple, sont bien conformes à ce qu'ils déclarent par ailleurs pour les impôts. Et s'il y a des discordances, eh bien éventuellement d'interroger les députés sur ce fait et de s'entendre avec eux sur une évaluation la plus exacte, la plus exhaustive et la plus sincère de leur patrimoine.
Et comment avez-vous accédé à cette fonction ? Je vais élargir un petit peu la question en vous demandant, est-ce qu'il y a une politique de gestion des progressions de carrière faites par une entité de ressources humaines pour les hauts fonctionnaires lorsqu'ils, par exemple, sortent à la Cour des comptes, ou est-ce que c'est plutôt au gré de rencontres de gens qui vous proposent de travailler lors, par exemple, de la création d'une entité, de rejoindre cette entité ou de travailler, faire, par exemple, une expérience de cabinet ?
Plutôt la deuxième partie de votre question qui correspond à la réalité. Pour cette haute autorité en particulier, à la création effectivement de cette instance, les dirigeants de cette autorité ont fait appel à des magistrats, que ce soit des magistrats de l'ordre judiciaire ou des magistrats administratifs ou bien des magistrats de la Cour des comptes pour remplir les fonctions que je décrivais précédemment. Et effectivement, en réalité, c'est plus par connaissance, par réseau, ou là par demande, c'était une demande du président de cette haute autorité au premier président de la Cour des comptes, qui ensuite l'a répercuté aux différents membres de cette institution. Donc c'est plutôt par ce biais que cela se fait, plutôt que par un accompagnement RH qui ne se justifierait pas forcément compte tenu de la taille de ces institutions qui sont quand même relativement petites. Et voilà, les choses se font plutôt par... transmission d'informations de président d'institution à président d'institution, en l'occurrence.
Alors, une question, est-ce que vous seriez intéressé à un moment de votre carrière par une expérience de cabinet, soit en tant que conseiller technique, soit en tant que directeur de cabinet, alors dans un, je ne sais pas si vous avez un ministère qui vous intéresserait ou une personnalité qui vous aimeriez travailler, donc est-ce que plus généralement, c'est ce genre d'expérience-là qui est quand même généralement... c'est une expérience qui est souvent faite par certains énarques. Est-ce que ça vous c'est quelque chose auquel vous pensez, en tout cas, ou pas du tout ?
Pour être tout à fait franche, c'est quelque chose qu'on m'a déjà proposé et que j'ai refusé, mais parce que effectivement, je pense qu'il y a plusieurs conditions. Il faut avoir une adhésion forte au projet qui est porté par la personnalité politique en question, enfin pour le ministre. Il faut avoir une sympathie pour le personnage, en quelque sorte, parce qu'on est amené à travailler beaucoup pour lui, et donc il faut à minima avoir confiance en lui et être porté par une forme de un élan sur le fond. Par ailleurs, il faut aussi avoir une compétence réelle sur le sujet, je pense. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup hésité. Finalement, je n'y ai pas participé, mais bon, peut-être ça viendra plus tard. C'est qu'il faut aussi être capable d'avoir une hauteur de vue suffisante sur un sujet. Il y a beaucoup de personnes qui vont parfois en cabinet assez jeunes et qui se brûlent les ailes, en quelque sorte, en étant tout de suite à un poste de responsabilité aussi haut, sans pour autant parfois connaître réellement la réalité, enfin les enjeux d'une politique. Oui, oui. Et donc, mais ça reste un lieu, effectivement, c'est un lieu où se décident beaucoup de choses, donc il y a quelque chose d'intéressant à y être, parce qu'on est proche de là où les choses se décident, du pouvoir, en quelque sorte. On voit comment fonctionne l'État, vraiment, au cœur de la machinerie. Mais, effectivement, il faut réussir à garder l'équilibre, je trouve, quand on est à ce type de poste, avec ce qu'est la réalité administrative ou la réalité de terrain, comme on dit. Donc, voilà, ça reste une perspective possible pour moi, mais à ce stade de ma vie personnelle et professionnelle, c'est pas forcément une piste que j'envisage.
Alors, si on résume très, très, très sommairement, mais vraiment très sommairement votre parcours, on pourrait dire normalien, puis énarque, puis dans la haute fonction publique. Donc, on voit que c'est quelque chose auquel vous semblez être attaché. À titre personnel, qu'est-ce qu'évoque pour vous le concept de transparence de la vie publique?
Parfois on dit que c'est quelque chose de récent, il y a tout un débat autour du fait qu'il y a trop de transparence ou ce genre de choses. Je voudrais rappeler quand même que dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est déjà dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc c'est une notion vraiment ancienne qui est aussi de rendre des comptes, bon, qui est très, très chère à la Cour des comptes, bien sûr, mais qui est plus généralement dans le service public. Moi, je pense que c'est une notion importante de pouvoir avoir un retour, que les citoyens puissent avoir réellement une vision, un retour sur ce qui est fait de l'argent public et ce qui est décidé. Et c'est une notion qui est à la fois assez ancienne, quand même, je trouve, et en même temps qui prend une actualité nouvelle aujourd'hui avec le numérique, l'ouverture des données publiques, le fait que les citoyens peuvent aussi prendre en main davantage toutes ces données qui sont à leur disposition et avoir eux aussi un droit de regard sur la façon dont s'organise le service public.
D'accord. Donc, nous le disions, enseignante dans le master économie et financement des métiers de la culture ou encore à la Cour des comptes, conseillère référendaire, notamment dans le secteur de la culture, vous n'avez manifestement aucune difficulté à penser finalement les liens entre argent et culture. Et pourtant, en France, ceux-ci sont loin d'être une évidence. À l'heure actuelle, effectivement, dans notre pays, on se pose des questions sur la culture, notamment la fameuse notion d'exception culturelle française. Pour vous, cette notion est-elle une réalité? Si oui, quelle réalité concrète elle recouvre et dans quelle mesure elle vit parmi nous? Et finalement, est-ce que, selon vous, la France a encore, à l'heure actuelle, avec la crise et tous les problèmes, autres enjeux qui se posent, les moyens de son ambition culturelle?
Je vais vous faire une réponse personnelle qui n'est en aucun cas je ne représente aucune institution en disant cela. Effectivement, il y a une tradition en France de cette notion d'exception culturelle qui correspond à une idée que pour permettre à rendre possible, rendre accessible des œuvres et une création, on a besoin d'un soutien public parce que le marché seul ne peut pas financer des œuvres qui seraient réellement patrimoniales, c'est-à-dire qui auraient vraiment vocation à rester pour les siècles à venir, et que si on laisse cette partie de la production donc culturelle uniquement aux forces du marché, on risque d'avoir des biais, voilà, c'est ce qui justifie l'intervention de l'État notamment et des collectivités locales, enfin territoriales également. Aujourd'hui, on a un contexte budgétaire qui est très compliqué en France et qui est assez contraint et qui oblige un certain nombre d'instances publiques à réduire leur financement, notamment pour la culture. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir ce niveau et cette exception, effectivement, qui reste importante en France et qui reste portée par les dirigeants politiques, mais d'arriver à maintenir un niveau d'intervention publique qui a un sens, que de ne pas saupoudrer des aides qui soient de montant infime et qui n'aient aucun impact sur la création ou la conservation des œuvres en France, tout en essayant d'avoir une utilisation des deniers publics au plus juste, plus rationnel, plus efficace. Donc moi je trouve ce champ passionnant parce que ça oblige à réfléchir justement à la façon dont on intervient. Et puis il y a des nouvelles données qui entrent en jeu. Je parlais du numérique tout à l'heure sur notre sujet. Le numérique, à la fois, ça bouleverse complètement cette économie de la culture parce qu'il y a des nouveaux acteurs type Google, Amazon, Netflix qui arrivent et qui sont des acteurs mondiaux. Donc ça complique complètement ça complique beaucoup le problème. Et en même temps, ça ouvre des champs nouveaux. Et puis le numérique, ça ouvre aussi des perspectives. Par exemple, le financement participatif. Il y a d'autres modes de financement qui sont possibles grâce à ces outils-là. Et voilà, c'est un champ qui est encore à explorer. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer à travailler dans ce secteur.
Eh bien, écoutez, merci Blandine pour votre contribution à notre petite interview. Quentin et moi sommes vraiment ravis de vous avoir reçu et d'avoir discuté avec vous de sujets aussi passionnants. Et je mets quand même en exergue ce que vous disiez à la fin tout de suite, à savoir finalement l'idée d'une culture durable, penser un peu l'écologie de la culture avec aussi tout un tas d'enjeux sociaux derrière, au-delà d'enjeux financiers ou économiques. Écoutez, merci à vous.
Merci à vous.
Et je crois que Quentin comme moi, vous souhaitons une excellente continuation dans votre parcours brillant pour vous revoir peut-être d'ici quelques années sur Transistor Web Radio avec un nouveau volet sur votre carrière. Merci.